En 1852 déjà, dans son roman « La maison d'Apprevant », Charles Dickens se moquait de l'univers judiciaire à travers l'affaire Jarndyce contre Jarndyce. Deux équipes d'avocats s'affrontent, pendant plus d'une vie d'homme, au sujet d'une énorme succession, au point que celle-ci finit engloutie jusqu'au dernier penny dans la bataille juridique. Là-dessus, il ne leur reste plus qu'à déclarer l'affaire caduque et à passer à autre chose. Morale de l'histoire, quand une compagnie à but lucratif se mêle de répartir un pactole, elle a tout intérêt à être le moins efficace possible. Or, c'est précisément ce que fait le secteur FIRE. Il crée de l'argent en accordant des prêts, puis le fait circuler le long de circuits souvent très complexes en prélevant sa part sur chaque transaction. Pour finir, aux yeux des employés de banque, l'opération perd tout son sens et paraît aussi absurde que ses tâches délibérément bâclées par des cabinets d'audit pour pouvoir traire une vache à lait. Cela explique sans doute pourquoi ces employés sont si nombreux à être incapables de dire en quoi consiste leur spécialisation. Bruce. Je travaille comme gestionnaire de fonds dans une banque de dépôt. Je n'ai jamais bien saisi ce que font les banques de dépôt. Ce que je veux dire, c'est que je comprends l'idée générale, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle représente juste une couche comptable supplémentaire qui ne sert à rien. Il paraît qu'elles ont pour mission de défendre certains concepts comme les actions et les obligations. Comment elles font ça exactement ? Ces concepts sont menacés par des hackers russes, peut-être ? Pour autant que je puisse en juger, tout le business des banques de dépôt n'est qu'une immense couillonnade. Cette confusion a aussi une autre cause. Il règne dans les banques une atmosphère de peur, de stress et de paranoïa bien plus marquée qu'ailleurs. Une pression énorme s'exerce sur les salariés pour qu'ils s'abstiennent de poser trop de questions. Un banquier dissident m'a décrit par le menu les manigances des grandes banques. Elles pratiquent un lobbying agressif auprès du gouvernement pour qu'il instaure des réglementations qui leur sont favorables, puis encouragent tacitement leurs employés à faire croire aux clients que toutes ces lois leur ont été imposées. Sous cette chape de plomb du mensonge, tenter de dire la vérité est à peu près aussi terrible que faire son coming out dans les années 1950. Le banquier anonyme conclut « Il y a plein de gens qui ont lu votre article sur les jobs à la con et qui connaissent la réalité de notre secteur, mais ils sont paralysés par la peur de perdre leur boulot, moi compris. Du coup, on ne discute jamais ouvertement de ces sujets. On se ment à nous-mêmes, on ment à nos collègues et à nos familles. » C'est un sentiment très répandu au sein de cette industrie. Presque tous les employés de banque avec qui j'ai échangé m'ont dit mettre en œuvre des stratégies hyper élaborées pour faire disparaître les moindres détails susceptibles de les relier à leur employeur. En même temps, beaucoup soulignent à quel point ils se sentent soulagés de pouvoir enfin exprimer ce qu'ils ont sur le cœur depuis tant d'années. Écoutons par exemple le témoignage de Rupert, un réfugié économique d'Australie, qui travaille désormais à la City. Il évoque les effets de la bullshitisation au sein de l'institution financière qu'il emploie. Rupert. Bon, évidemment, le secteur bancaire tout entier est du pipeau, vu qu'il ne crée aucune valeur. Mais c'est un autre problème. Intéressons-nous plutôt à ceux qui, dans l'univers de la banque, n'en fichent vraiment pas une. En fait, il n'y en a pas tant que ça parce que c'est un microcosme assez bizarre. D'une manière générale, on ne fout rien. Mais à l'intérieur de ce rien, la plupart des gens sont productifs, méritants et souvent efficaces. Le cas le plus flagrant, le meneur en quelque sorte, c'est le service des ressources humaines. À un moment donné, les banques se sont rendues compte que tout le monde les détestait et surtout que leur personnel le savait très bien. Elles ont voulu essayer d'arranger ça. Dans ma boîte, il y a un intranet. On a demandé au RH d'en faire une sorte de communauté interne, style Facebook. Ils ont lancé le truc, mais personne ne l'utilisait. Ils ont commencé à nous harceler pour qu'on y aille. Du coup, on s'est mis à le haïr encore plus. Ils ont essayé toutes sortes d'autres techniques pour nous motiver, comme d'écrire des sensibleries à la con sur la boîte, de publier des soi-disant blogs internes dont tout le monde se fout. Rien à faire. Ça fait 3 ans qu'il s'échine sur ce Facebook interne et personne n'y va jamais. Jusqu'à maintenant, ça s'est résumé à des commentaires cucu postés par des gars des RH auxquels un de leurs collègues répond « Ouais, super texte, je suis complètement d'accord ». Comment ils font pour supporter ça, j'en ai pas la moindre idée. Ça démontre juste le manque total de cohérence du secteur. Un autre de leurs grands trucs, c'est la semaine de bénévolat. Personnellement, je refuse d'y participer. Je donne aux œuvres caritatives, mais il n'est pas question que je le fasse par l'intermédiaire de ma banque. Pour eux, ce n'est qu'une gigantesque campagne de pub. Ils cherchent à remonter le moral des troupes en interne et à faire oublier au public que tout ce que font les banques, c'est s'approprier le fruit du travail d'autrui à travers leurs activités de prêt. Voilà comment ça se passe. Ils se fixent un objectif de participation, disons 90%, exclusivement sur la base du volontariat. Après quoi, ils font des pieds et des mains pendant 2 mois pour que les gens s'inscrivent. Si tu ne t'inscris pas, on note ton nom et quelqu'un vient te voir pour te demander des explications. Pendant les 2 semaines qui précèdent l'événement, tu reçois des mails automatiques en provenance de la direction générale qui t'encourage à signer. La dernière fois, j'ai vraiment craint pour mon poste. Ce serait chaud si je perdais mon taf, parce que mon titre de séjour, c'est mon visa de travail. Mais j'ai tenu bon. Le nombre d'heures qu'il passe ainsi à courir après les bénévoles, c'est ahurissant. Je crois que le terme technique, c'est être désigné volontaire. En plus, les actions de bénévolat en elles-mêmes ne valent rien. Ça va être, par exemple, 2 heures de ramassage des détritus ou bien une distribution de sandwichs dégueux pour les sans-abri. Sauf que tous les à côté, l'emballage des sandwichs et le reste, sont pris en charge par d'autres. Les gens de la banque ne font que se pointer, distribuer les sandwichs et rentrer chez eux dans leur belle bagnole. L'ensemble de l'opération n'a souvent qu'un seul but, tenter de décrocher une récompense du type « meilleur employeur de la ville ». Il y a un critère, œuvre caritative que la banque doit remplir pour pouvoir concourir. Après, ça lui facilite les choses au niveau des recrutements. Ensuite, on a le gars qui s'occupe des plannings. Après avoir énuméré plusieurs postes qui pourraient aisément être automatisés et qui semblent n'exister que pour créer des emplois, Rupert décrit le plus manifestement inutile de tous. Rupert. Enfin, il y a le management intermédiaire. L'autre jour, j'avais besoin de faire valider un truc par un N+2. Je me suis connecté à notre système interne qui nous permet d'envoyer ce genre de demande par mail. Et là, je me suis retrouvé face à une liste de 25 managers, sachant que l'approbation d'un seul suffit. Il n'y en avait qu'un dont le nom me disait vaguement quelque chose. Mais que peuvent bien faire ces types toute la sainte journée? Ils n'ont pas peur de se faire griller un de ces jours et qu'on les envoie bosser chez McDo? Que font ces types toute la journée? À en juger par les témoignages de managers intermédiaires que j'ai reçus, la réponse est, dans la majorité des cas, pas grand-chose. Si la compétence et l'efficacité sont des valeurs qui comptent aux échelons inférieurs, il semble que ce soit de moins en moins vrai à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie. Le récit de Rupert est fascinant à bien des égards. Prenez ces faux concours qui fonctionnent comme des machines à bullshitisation et que l'on voit fleurir dans de nombreux contextes. Au Royaume-Uni, l'aspiration à se voir élire meilleur conseil municipal au niveau régional ou national pousse les administrations locales à toutes sortes de stupidités. C'est à qui cochera le plus de cases, le paroxysme étant atteint avec ces simulacres ridicules de bonnes actions auxquelles les employés sont contraints de participer juste pour que la direction puisse attirer de futurs recrues en brandissant son titre de « meilleur employeur du coin ». Même son de cloche du côté des grandes institutions financières, où l'on retrouve plusieurs des éléments décrits par Rupert. Ainsi, cette efficacité exaltée, stressante, mais quasi magique qui caractérise certains secteurs, tandis que d'autres sont manifestement en sureffectif, le tout dans un contexte où personne ne sait vraiment en quoi consistent les activités de la banque, ni même si elles sont bien régulières. Sans oublier l'interdiction implicite d'aborder toutes ces questions. Dans les institutions financières, beaucoup de salariés n'ont qu'une idée très floue de leur contribution à l'ensemble. Irène a travaillé pour plusieurs grosses banques d'affaires dans ce qu'on appelle l'onboarding, le service chargé de s'assurer que les clients, en l'occurrence il s'agissait de fonds de pension et de fonds de capital investissement, respectent bien les réglementations gouvernementales. En théorie, toutes les transactions dans lesquelles s'engageait la banque devaient être expertisées. Mais la procédure était ouvertement biaisée puisqu'elle était sous-traitée à des équipes douteuses basées aux Bermudes, à Maurice et dans les îles Caïmans, là où les pots de vin ne coûtent pas cher. Ces dernières, invariablement, concluaient que tout était en ordre. Comme un taux d'approbation de 100% ne pouvait pas passer, il fallait mettre en place un édifice compliqué pour faire croire qu'on repérait quand même des problèmes de temps en temps. Le job d'Irène consistait à ratifier l'aval de ses vérificateurs extérieurs, puis à préparer les documents relatifs à la transaction, documents qu'un comité de contrôle qualité relisait en signalant consciencieusement les coquilles et autres erreurs mineures. Ensuite, chaque service communiquait son total de recalés et les chiffres étaient collationnés sous forme de tableau par la division des statistiques. Enfin, tout ce petit monde passait des heures en réunion à palabrer sur chaque cas. Irène. Il y avait une caste de job à la con encore plus élevée que les statisticiens à deux balles. C'était celle des analystes de données. Leur boulot, c'était de prendre les chiffres des recalés et d'en faire de belles figures à l'aide de logiciels sophistiqués. Ensuite, les chefs montraient ces belles figures à leur patron, ce qui leur permettait de faire oublier qu'ils n'avaient pas la moindre idée de ce dont ils parlaient, ni de ce que pouvaient bien fabriquer leurs équipes. Chez la grande banque A, j'ai vu passer 5 chefs en 2 ans. Chez la grande banque B, j'en ai eu 3. La plupart avaient été sélectionnés et placés là par des supérieurs qui faisaient comme si leur confier ces châteaux de boue était un cadeau. C'est triste à dire, mais c'est souvent comme ça que les boîtes remplissent leur quota de minorité dans les postes d'encadrement. On retrouve là cette combinaison bien connue d'arnaques et de faux-semblants, puisque personne n'avait le droit de parler des sociétés véreuses des îles Caïmans, au sein d'un dispositif sciemment conçu pour être inintelligible à tous. Les managers à qui l'on refilait le bébé n'y comprenaient goutte, pour la bonne raison qu'il n'y avait rien à comprendre. Ce n'était qu'un absurde rituel. Et l'on peut se demander si les personnes situées plus haut dans la chaîne alimentaire, les moulineurs de données, les cadres qui ne faisaient que passer, les supérieurs qui les avaient choisis, en avaient conscience. Outre les phénomènes habituels observés dans des organisations verticales dédiées à des projets futiles, génération artificielle de stress et de tension, hystérie autour des deadlines, relations sadomasochistes, silences apeurés, une pression intense s'exerçait sur les employés pour qu'ils participent à divers cérémoniaux par lesquels l'entreprise tentait de prouver qu'elle se souciait d'eux. Dans le cas d'Irène, il ne s'agissait pas de charité hypocrite, mais de séminaires New Age dont la bêtise la faisait pleurer de rage. Irène. Pire que les statistiques, il y avait ces séminaires sadiques et infantilisants sur la souplesse et la pleine conscience. Non, vous ne pouvez pas faire moins d'heures. Non, vous ne pouvez pas être payé plus. Non, vous ne pouvez pas refuser de bosser sur tel ou tel projet merdique. Mais vous avez le droit de vous taper du début à la fin ce séminaire à la con où la banque vous explique combien elle valorise la souplesse. Les séminaires de pleine conscience étaient encore pires. Ils essayaient de réduire l'ineffable beauté et la sidérante tristesse de l'expérience humaine à la crudité d'action physique, respirer, manger et chier. Respirer en pleine conscience, manger en pleine conscience, chier en pleine conscience, et vous aurez une belle carrière. Cet effort pour résumer la vie à la pure réalité physique visait sans doute à transmettre aux salariés le message suivant. C'est vrai, il y a des abstractions plus réelles que d'autres, et toutes les tâches de bureau ne poursuivent pas un but juridique, moral, ni même économique évident. Mais cela n'a pas d'importance. En somme, on vous interdit de prétendre que vos activités quotidiennes ne sont qu'une succession de rituels vides de sens, puis on vous oblige à assister à des séminaires où des gourous embauchés pour l'occasion vous serinent. Tout ce que nous faisons n'est-il pas au fond une succession de rituels vides de sens? Elliot, Rupert et Irène avaient chacun un point de vue partiel et incomplet sur une organisation très vaste et très complexe. Aucun n'avait une analyse globale. La vraie question, c'est de savoir qui en a une. On peut supposer que les supérieurs d'Irène, qui assignaient à l'onboarding des cadres issus des minorités, étaient conscients de l'inanité du service tout entier. Mais peut-être qu'ils ne savaient pas précisément en quoi il était si inutile, ni pourquoi. Or, on a du mal à imaginer une enquête secrète qui permettrait de déterminer combien d'employés de banque pensent avoir un job à la con et dans quel service ils se concentrent. C'est un certain Simon qui m'a livré ce qui s'apparente le plus à une vision d'ensemble. Simon a fait de la gestion du risque pour plusieurs grandes banques internationales. Cela consiste essentiellement, explique-t-il, à analyser leurs procédures internes afin d'identifier les problèmes. Simon. J'ai passé 2 ans dans une de ces banques à étudier les principales procédures servant aux paiements et aux opérations. Ma mission, c'était de mettre en évidence les stratagèmes informatiques qu'un employé pouvait utiliser pour frauder ou voler et de recommander des solutions pour éviter cela. En bossant là-dessus, par hasard, j'ai découvert que la plupart des gens de la boîte ignoraient à quoi servait leur travail. Si vous leur demandiez en quoi consistait leur job, ils vous répondaient qu'ils devaient se connecter à tel système, sélectionner telle option du menu et entrer certains trucs. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Simon était en quelque sorte un agent omniscient. Il était capable de dire comment devaient s'emboîter tous les éléments mobiles qui composent une banque, puis d'aplanir les incohérences, fragilités ou doublons qu'il repérait. À ce titre, il est parfaitement qualifié pour répondre à notre question. Ses conclusions ? Simon. En restant prudent, j'estime que 80% des 60 000 employés de la banque ne servaient à rien. Leur boulot pouvait être réalisé en totalité par des programmes informatiques, lesquels étaient de toute façon conçus pour effectuer ou reproduire des opérations débiles. Vous avez bien lu. 48 000 des 60 000 employés de cette banque ne faisaient rien d'utile, rien qui n'aurait pu être facilement effectué par des machines. Selon Simon, il s'agissait de jobs à la con de facto, même si les employés étaient empêchés d'analyser collectivement la situation et fortement incités à garder leurs éventuels doutes pour eux. Mais qu'en était-il des dirigeants? Pourquoi, en constatant cela, n'essayait-il pas d'y faire quelque chose? L'accueil réservé aux propositions de réforme de Simon nous fournit la réponse. Simon. Une fois, j'ai mis au point un programme qui résolvait un problème de sécurité crucial. Je suis allé le présenter à un cadre dirigeant qui a convié tous ses consultants à la réunion. Ils étaient 25 dans la salle. Ma présentation a déclenché une vive hostilité, et j'ai vite compris pourquoi. Mon programme revenait à automatiser l'ensemble des tâches que tous ces gens étaient payés pour faire à la main. Ce n'est pas qu'ils y prenaient plaisir. C'était un boulot pénible, monotone, ennuyeux à mourir. Ce que je proposais aurait pourtant coûté l'équivalent de 5% des salaires cumulés de ces 25 personnes. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Dans cette boîte, j'ai repéré plein d'autres problèmes similaires et suggéré des solutions pour les régler, mais pas une seule de mes recommandations n'a été suivie d'effet. Pas étonnant, chaque fois ma solution aurait fait perdre leur boulot à des gens qui n'étaient là que parce qu'ils conféraient un sentiment de puissance au cadre à qui ils rendaient des comptes. Ces postes n'étaient sans doute pas des jobs de larbin à l'origine, mais ils finissaient par le devenir et le rester. De fait, la menace de l'automatisation est omniprésente dans les grandes entreprises. J'ai entendu parler de compagnies où les programmateurs se baladent avec des t-shirts disant « Barre-toi ou je te remplace par un script ». Mais le plus frappant ici, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est qu'elle plane au-dessus des cimes de la hiérarchie. Elle fait trembler les cadres dirigeants, ceux-là même qui, s'ils sont un peu versés dans le capital investissement, ne sourcillent pas lorsqu'il s'agit de racheter des sociétés et de leur refiler des dettes colossales au nom de la réduction des coûts et de la rationalisation, ceux-là même qui tirent fierté de leur propre personnel pléthorique. D'ailleurs, selon l'analyse de Simon, une grande banque ne serait rien d'autre que cela. Une nuée de bataillons féodaux qui rendent des comptes à leurs seigneurs respectifs. Certains avancent une autre raison pour expliquer la multiplication des cadres ou personnels administratifs inutiles. La protection contre d'éventuelles poursuites judiciaires. Écoutons Aaron, employé de banque lui aussi. Aaron. On voit de plus en plus souvent des directeurs de cabinet dans les grandes institutions financières. Cette fonction fait simplement office de tampon, inefficace, pour protéger la direction en cas de litige avec des instances régulatrices ou des employés mécontents. Ça ne marche jamais, parce qu'un plaignant cite toujours nommément le dirigeant qui l'accuse au cours de la procédure. Ça maximise ses chances d'avoir gain de cause, puisque l'entreprise cherchera à éviter le scandale. Du coup, que font exactement les directeurs de cabinet ? Ils organisent des réunions avec les dirigeants et leurs équipes exécutives, puis ils embauchent tout plein de consultants à la noix chargés d'enquêter auprès des managers pour déterminer pourquoi tout le monde a le moral à zéro. Ce qu'il serait très facile de savoir si l'on demandait simplement leur avis aux salariés. Vous les verrez souvent aussi organiser des journées bénévolat ou publier des articles d'autopromo dans la presse. Selon Aaron, les départements de ressources humaines sont moins susceptibles de remplir un tel rôle aujourd'hui, car eux aussi craignent pour leurs responsabilités juridiques. Clairement, les situations varient d'une banque à l'autre.